Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cet échange dans votre magazine Parole aux auditeurs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert ce mardi 15 septembre leur session ordinaire de septembre qui sera essentiellement budgétaire conformément à l'article 116 de la Constitution. Dans la fièvre de cette rentrée post-état d'urgence due à la pandémie de la COVID-19, les députés tant de la majorité que ceux de l'opposition se disent beaucoup attendre de cette session pour aider à améliorer les conditions de vie de la population. Pour eux, en plus du vote du budget, certaines réformes par le vote des lois et le contrôle parlementaire sont prioritaires au cours de cette session. Que pensez-vous de ces priorités? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel. Pour intervenir en direct dans ce magazine, mise en onde réalisé par Polydor Basunga, Pierrot et Lamegi, c'est pour moi un réel plaisir de vous présenter ce magazine. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Plusieurs élus nous ont appelés pour intervenir dans ce magazine et beaucoup d'auditeurs aussi qui l'ont commenté sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mais commençons d'abord dans ce studio avec vous, Monsieur Ntingi Pululu Servo, député national élu de Kinshasa. Mais il y a aussi Honorable Bintou Tshabola qui est en ligne avec nous, élu de Katanda au Kasaï oriental. Hein, et l'ensemble des auditeurs avec qui nous allons échanger autour de cette question de la session parce qu'elle est très intéressante. Ntingi Pululu Loulou, député national, bonjour et bienvenue dans le studio des Radio Capi.
Merci, bonjour. Je salue aussi tous nos auditeurs de partout.
Et vous sortez, vous venez fraîchement des vacances parlementaires. En bref, comment ça s'est passé pour vous, peut-être aussi l'ensemble des élus?
Bon, les vacances parlementaires, je venais d'achever, j'ai déterminé. Le dernier parcours, c'était une mission qui m'a été confiée par le bureau de l'Assemblée nationale d'assister au sacre d'un évêque au Kwangwa Popokabaka, mais aussi d'enquêter la route RN numéro 16. Mm-hmm. RN numéro 16, donc c'est Kenge qui quitte, donc Kenge Popokabaka, vous sortez Kimvula là dans le Congo central, donc vous commencez à Kwango, mais vous allez sortir vers Congo central. C'est une route de long de 380 km. Une route à des certes agricoles très très importantes, mais
abandonnée.
Je vous dis, c'est à partir de ces voyages que j'ai appelé le ministre du développement rural. Je lui ai rappelé que le développement rural ne peut pas être un slogan. Il faut éviter vraiment que les pays restent dans cet état-là. Ce voyage m'a permis de recadrer un peu les choses. C'est-à-dire, nous devons voir, je dis au ministre du Développement Rural, vous allez demander au président de la République, pendant le Conseil des ministres, demandez-lui de réformer, au vrai sens des termes, ce qu'on appelle les transferts de compétences. Parce que le gouverneur, pour eux, pense que la libre
administration des provinces,
la rétrécession, il faut seulement les renvoyer de l'argent. C'est absolument mauvais. Très mauvais. Je vis ça. J'ai dit au ministre du Développement Rural, des jours nous étions avec lui, juste pour lui parler de ça, je lui ai dit, voilà, vous allez faire ceci. Un, il faut demander la mise en place d'un comité de suivi des cantonnés manuels. Il faut que les gens travaillent sur la route parce que je suis arrivé à un village, le village de Honorable Mboso. Ce village-là, on appelle forêt de même taille. Donc, la forêt, les arbres ont la même taille. Même taille. J'étais là. Plus à 5-7 kilomètres, il y a un village où on vend les ananas. Vous voyez le gîte d'ananas là, 12 ananas à l'intérieur, 1200 francs. 12 ananas, ou ici, l'ananas seul,
c'est 7000 francs.
C'est 7000 francs. Mais là-bas, 12 000. Mais on vous demande, mais pourquoi ça, même si je vends ça à 500, qui va acheter? Qui peut acheter? Ça m'a fait très mal. Les sacs de foufou, quand vous arrivez à Popokabaka un peu, vous traversez un petit pont là, Luangi, quelque part là. Les sacs de foufou, 12 000 francs. Bande verte, 1 mètre, je crois, 1 mètre 65. De long, sac de foufou. 12 000 francs, mais qui va acheter?
Alors ça, exactement, ça vous a donné l'idée de quelles doivent être les priorités, vous, en tant qu'élu, parce que la session a commencé, même si elle est budgétaire.
Non, vous savez, la Constitution est claire. Nous avons à l'article 122 et 123, on définit ce qui est les compétences du gouvernement et les compétences du Parlement. Nous n'avons pas les compétences réglementaires. Si vous lisez l'article 92, pour nous qui étudions ici, 92 pour ceux qui, je crois, Belgique ou France, l'article est clair. Le gouvernement, représenté par les premiers ministres, assure l'exécution des lois et il a pouvoir sur la réglementation. C'est-à-dire, pour que les choses reviennent normalement, ça ne demande pas la prière. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. Moins encore d'être religieux. Un, le ministre du Développement rural, maintenant on doit engager le jeune diplômé des instituts des bâtiments, travaux publics, IBTP. Dans chaque territoire, on doit avoir un ingénieur des chaussées. Pour quelles raisons? Tous les gens qu'on va recruter comme cantonné Manuel, lui va les diriger parce que lui, il connaît la science. C'est pour que nous ayons des routes en bon état. On n'a pas besoin de macadam, mais la route que ça soit praticable pour faciliter la production des paysans qui arrivent dans les centres commerciaux. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai vu des maisons comme des huttes. Il est difficile de rencontrer une école de construction dans un territoire. Seulement, vous avez pédagogie, commerciale, informatique, pendant qu'ils n'ont même pas de courant. Mais l'école de construction, il n'y en a pas. Or, nous devons avoir des jeunes diplômés en construction. C'est eux qui vont viabiliser les villages.
Mais c'est pourquoi on ouvre la parenthèse pour parler de notre système éducatif qui a des programmes mal adaptés.
Non, non, non. C'est-à-dire que pas tout mal adapté. Un jour, vous allez m'appeler, on va parler de l'éducation. Je suis promoteur d'école. J'ai ramené ici école entrepreneuriat, les systèmes là que je suis en train de mettre maintenant chez moi. Un jour, on va en parler. Mais je vous dis, ce qu'on a, on se sert de ce qu'on a. On se sert de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est quoi? Nous avons déjà, l'enseignement existe. Donc, il faut que ce sont les mesures réglementaires que le gouvernement
doit accompagner. Voilà. Voilà. Alors, rapidement, parce qu'il y a aussi.
Et on doit avoir.
Ok.
J'ai vu la pauvreté. J'ai lu la pauvreté. La pauvreté est tellement grandissante dans des provinces. On est en train de déshumaniser l'être congolais. Ça, je n'ai pas aimé.
Et là,
maintenant, pour sortir de là,
rapidement,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on nomme dans chaque territoire un ingénieur agronome de l'État, pas privé, non, les ingénieurs agronomes de l'État qui doivent superviser les moniteurs agronomes dans chaque secteur et chaque village. On doit avoir des vétérinaires de l'État dans chaque territoire, chaque secteur. Pour quelles raisons? J'avais suivi le président de la République comme dans les passés, nommer les médecins. C'est très bien. Engager les médecins, c'est très bien. Mais les médecins, c'est quoi? C'est guérir. Or, le principe, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Pour prévenir, on doit bien manger. Pour bien manger, il faut des agronomes, il faut des vétérinaires. Je vous dis l'arrivée.
Voilà. Alors, ça, c'est ce que vous avez vu pendant les vacances parlementaires. Revenons maintenant à la session du mois de septembre. Plusieurs élus estiment qu'au-delà du budget, il y a quelques matières prioritaires qu'il fallait examiner. Et pour vous, rapidement, en grande ligne, parce qu'il faut qu'on écoute ceux qui sont à l'extérieur de ce studio, quelles sont les grandes lignes pour vous des priorités pendant cette session en dehors du budget?
J'avais dit depuis le début, cette législature a comme mandat principal le sourire du peuple congolais. Parler de tous les Français, terminez votre dictionnaire, mais il faut atterrir au sourire du peuple congolais. Moi, j'ai été élu pour donner du sourire au peuple congolais. C'est pas en vain. Dans le budget, j'avais fait une découverte que le frais de fonctionnement soit revu à la baisse, à moins de 30%. Le budget, parce que il faut avoir le budget, mais la finalité, c'est l'intérêt du peuple. Donc, on doit vivre ça. Le budget doit être revu. Donc, les frais de fonctionnement doivent être revus à la baisse pour permettre à ceux que les enseignants, les militaires, la population, tout le monde trouve de l'emploi, qu'on crée de l'emploi. Parce que si nous avons 70% du budget engagé pour les salaires et l'investissement, vous verrez que nous aurons peut-être 35% pour l'investissement et on va commencer à créer de l'emploi. Si on ne crée pas de l'emploi, le reste,
ça sera difficile.
Ce sont des chansons inutiles.
Voilà, nous allons d'abord écouter Franck hein, qui nous écoute de Vienne et François Itaïlibo et on va revenir à l'honorable Bintou. Alors commençons d'abord par vous, Franck. Merci hein, de nous avoir rejoint dans cet échange. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour à l'honorable qui venait de parler, bonjour aux amis avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup mon ami Pierrot pour la confiance. Je dois commencer par remercier l'honorable qui est avec vous au studio pour son objectivité et pour sa franchise. Parce que mon ami Pierrot, c'est depuis plus de 10 ans que je milite avec vous sur les ordres des paroles de la radio Capi. Quelquefois, quand des compatriotes comme nous qui vivons en dehors du pays émettons des avis par rapport à ce qui doit se passer là ou par rapport au bien-être des Congolais, il y a des compatriotes qui nous trouvent inutilement exigeants, il y a des compatriotes qui nous qualifient d'être idéalistes alors que parfois, nous voyons ce qui se passe, nous venons au pays, nous savons ce qui se passe et nous ne faisons que suggérer comment on peut aussi améliorer la qualité de la vie de nos compatriotes. Merci beaucoup à l'honorable parce que ce qu'il a décrit, c'est la réalité de ce que la plupart des Congolais vivent dans certains coins, dans nos milieux traditionnels. Lui peut-être a eu la chance d'effectuer les voyages sur ses tronçons, mais je lui demanderai de parcourir certains coins de la République, dans le Bandundu, dans le Kwango, dans le Maïndombe, mais c'est encore difficile mon ami Pierrot. Vous pouvez avoir votre Jeep, mais parfois pour une distance de 10 km, vous pouvez mettre 2 heures. Vous vous imaginez 2 heures pour 10 km, sur quel état de route? Et parfois, quand nous disons les gens pensent qu'on est idéaliste, on est ceci. Mais par rapport à la thématique même de l'émission d'aujourd'hui, je crois que en dehors de tout ce que la Constitution prévoit pour la session budgétaire ou quoi, ça je crois que c'est le devoir des députés. Mais pour nous compatriotes congolais, pour nous citoyens congolais, c'est d'abord le social qui doit nous intéresser. Je ne suis pas toujours au Congo, mais vous savez que je viens, je travaille, je repars, je suis toujours là, je vois ce qui se passe. Mais même vous qui êtes sur place, vous êtes en train de savoir comment la vie chauffe ces jours-ci. Donc on ne peut pas parler du développement dans un pays tant que le social n'est pas en place. Et peut-être quand on parle du social, les gens se demandent c'est quoi le social. Donc pour atterrir, pour moi, le social, c'est le bien-être des compatriotes. Dans le social, il y a le paquet de l'existence. Il y a le travail, il y a le logement, il y a le déplacement, et il y a tout cela. Parce qu'on ne peut pas d'abord parler du social si les gens ne savent pas travailler. On ne peut pas parler du social si les gens travaillent et ils ne sont pas payés. On ne peut pas parler du social si les gens ne savent pas se déplacer. Et on ne peut pas parler du social si l'arsenal du développement n'est pas possible. Or, tout cela s'enchaîne. Quand les gens travaillent, ils sont bien rémunérés, ils peuvent se permettre d'acheter, ils peuvent se payer des loyers, ils peuvent. Mais c'est dans cette société-là qu'on doit repenser même la vision de l'enseignement. On a toujours milité pour réformer les programmes. Donc, l'honorable est en train de dénoncer des situations que nous avons toujours dénoncées, les programmes de notre système éducatif.
Alors maintenant, Franck, concrètement, qu'est-ce que vous attendez des élus pendant cette session au regard de ces tableaux, de ces priorités que vous avez décrites? Alors, qu'est-ce que vous attendez des élus pendant cette session?
Mon ami Pierrot, merci beaucoup pour cette question encore. Quand moi je parle du social, ce que j'attends des élus, c'est de faire attention à ce qui sera là présenté comme budget. Parce que moi, personnellement, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre quel budget puisse être voté, alors que les honorables députés savent que ça, dans le budget qui venait d'être voté là et passé, les enseignants ne seront pas payés. Les infirmiers ne seront pas payés, les policiers ne seront pas payés, les gens de la fonction publique ne seront pas payés. Donc, on doit quand même tenir compte de tout le monde. Parce que quand on fait passer un budget seulement pour les frais de fonctionnement, pour payer les ministres, pour payer les gens de telle catégorie, mais on néglige ceux-là même de la base, les poumons de l'administration. Je crois que là, il y a des injustices que j'appelle des injustices au niveau du système salarial. Donc on ne peut pas voir dans un même pays, il y en a qui gagnent 10 000 le mois et il y en a qui gagnent même pas 100 dollars le mois. Ça ne se comprend pas.
Voilà. Donc, moi, alors merci, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Franck. C'est très intéressant.
C'est la justice sociale.
Oui, oui. Vous avez parlé de la justice sociale, qu'il faut que les élus fassent attention. Il ne faut pas voter un budget dans lequel vous savez qu'il y a certains ne seront pas payés. Et d'ailleurs, notre monsieur Nsingi Poulou, qui est avec nous ici, a évoqué cette question des frais de fonctionnement qui engloutissent presque plus de 50% du budget. François, vous êtes à Ilebo. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour, François.
Bonjour, Pierre. Merci. Bonjour, Gilles. Bonjour, Pierre. Bonjour à l'invité qui est honorable qui est avec vous là-bas.
On vous écoute, d'abord, François, oui.
Merci beaucoup pour votre sujet. Je tiens d'abord à féliciter l'honorable directeur du OIT, secrétaire honoraire, parce qu'elle a accompli sa condition sine qua non du règlement intérieur. Elle a été ici en vacances parlementaires. Elle a récolté les désirations de la population de tous les quatre secteurs, à Pangou, Malou, Asongé et Banga. Et merci aussi à l'honorable Kinda Mambani Marie-Lise, député professeur qui séjourne à Mapangou, en train de récolter les désirations. Ce sont les gens que nous avons besoin pour récolter la population. Vous savez, par rapport à ce sujet, cher Pierrot et le meilleur expert, moi, je pense que la gestion est budgétaire, la gestion est budgétaire, bien sûr, mais il y a des priorités pour moi vraiment à mettre l'accent sur cela. Moi, premièrement, j'aurais demandé aux députés de revoir la question des seuils. Vous savez, en 2018, chevalier de la plume, avec votre honneur, beaucoup de députés meilleurs sont tombés à cause des seuils. Les seuils ont favorisé les grands partis. Moi, j'aurais voulu que dans cette entrée parlementaire, qu'on puisse revoir la question des seuils parmi les dispositions qui peuvent être adoptées. Il faut aussi qu'on puisse revoir les modes de vote pour le président de la République. J'ai toujours un groupe là d'intérêts qui avait voulu qu'on puisse que les votes puissent se passer au deuxième degré comme en Afrique ici. Parce que les votes directs et universels, ça pose juste des problèmes de contestation. En tout cas, selon moi, il faut qu'on revoie les dossiers de seuil, il faut qu'on revoie les dossiers de vote directs et universels pour le président de la République, pour nous échapper à des problèmes.
Des contestations. Nous avons eu le débat avec les députés Ngoï Kassanji qui a initié ces débats autour du vote du président de la République au suffrage universel indirect. Alors, nous avons un autre honorable qui est avec nous en ligne, c'est Monsieur Bintou Tchabola. Vous êtes aussi élu, vous êtes élu de Katanda dans le Kassai oriental. Merci d'être avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à notre cher collègue. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Voilà, on ne parle pas de la session sans parler des vacances parlementaires pour faire juste un point rapidement et puis on parle de ce que vous considérez comme priorité pour vous.
Merci beaucoup. Il faut dire que nous revenons fraîchement des vacances parlementaires. Bon, dans le territoire de Katanda, Il y a eu autant de situations qu'il faut épingler, mais ce qu'il faut noter, que nous avons joué un grand rôle pour le retour de la paix. Vous avez entendu dernièrement qu'il y avait des conflits intercommunautaires. Alors, nous avons profité de notre présence pour mettre tout le monde autour d'une même table. Et puis, nous avons arraché le protocole d'accord pour permettre le retour définitif de la paix. dans les jours à venir, nous allons projeter encore d'autres rencontres. C'est mm-hmm. la grande activité, puisqu'on ne peut pas travailler tant qu'il y a des conflits sur le terrain. Donc, je profite de vos micros pour féliciter la population de Katanda qui a accepté de collaborer pour qu'il y ait la paix et une cohabitation pacifique entre communautés. Alors, et puis le gouvernement provincial qui nous avait appuyé et l'ensemble des autorités nationales et provinciales qui nous ont aidé à atterrir en douceur. Bon, en dehors de ça, nous sommes allés aussi consoler les victimes de l'incendie du 18 juillet 2020 dans le secteur de Chitolo, là où il y avait encore un peu de problèmes là-bas, qui avaient tout perdu, bien que le gouvernement national tarde encore à les assister. Et l'Assemblée nationale en qui nous avions posé le problème, ils continuent à espérer, nous leur avons donné l'espoir. Il y a aussi les activités parlementaires que nous avons effectuées vis-à-vis de tout ce que nous avons fait pendant la session du mois de mars. Et nous avons aussi visité d'autres endroits, surtout en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Et il y a des écoles, et nous sommes en train de des écoles en construction, pour des enfants qui étudiaient à même le sol ou bien dans des salles de classe en chaume ou en bambou. Alors, nous avons pu superviser tout ça et nous sommes allés dans plusieurs endroits et parler aussi de plus d'autres problèmes liés à nos vacances parlementaires. Voilà,
alors,
un résumé.
On sait que quand vous revenez, comme l'honorable Ntingi le disait, il y a le rapport que vous déposez, mais il y a la session budgétaire. Vous avez suivi notre ami Dilebo tout à l'heure. Quelles doivent être aujourd'hui les priorités des élus pendant cette période, au-delà du fait que la session est budgétaire?
Bon, merci beaucoup, Monsieur Piro. Ben, il faut dire qu'en dehors du budget, il y a beaucoup de questions qui seront évoquées. Bon, s'il faut parler du budget, le budget, normalement, nous voulons que le budget puisse répondre aux besoins de la population. Les besoins de la population aujourd'hui, c'est le vécu quotidien de tout un chacun. Et nous voulons que ces budgets, puisque les gens pensent que les budgets de 11 milliards, c'était beaucoup, qu'il fallait avoir un budget réaliste. Mais il faut savoir que la République démocratique du Congo mérite mieux que ces budgets-là de 11 milliards. Moi, je pense que le gouvernement doit se concentrer pour mettre fin à ce qui empêche qu'il y ait la mobilisation de beaucoup de recettes pour faire un budget non seulement réaliste, mais plus important que celui que nous avons et un budget qui mérite réellement à la dimension de notre pays. La FDC mérite un budget qui va au-delà de 15, 20, 30 milliards de dollars. Mais le problème, c'est au niveau de la mobilisation des recettes avec tout ce qu'il y avait comme quitte des recettes au sein du Trésor public. J'apprécie le travail qui est en train d'être fait par l'Inspection générale des finances. Et j'apprécie aussi le travail que nous avons fait au sein de l'Assemblée nationale pour avoir voté des lois qui vont dans le sens de mettre fin à la corruption pour que la République ne puisse pas continuer à perdre de l'argent. Ce qu'il y avait dans ces pays dans les temps, c'était que la République était en train de perdre beaucoup d'argent. Et c'est ce qui faisait qu'à ce que notre budget soit minime. Comme le temps est donné pour mettre fin à ce qu'il n'y ait pas de détournement de l'argent de l'État, le coulage des recettes, je pense que nous aurons un budget, que nous devons avoir un budget costaud à la dimension de notre pays. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans les faits, quand on est en train d'exécuter, parce que le budget, ce sont des chiffres qu'on a classés par les rubriques, ainsi de suite, mais il faut que ces budgets ici puissent aussi aller sur le terrain. Je prends l'exemple des routes, comme notre collègue a donné l'exemple des routes de Bandundu. Quand nous revenons dans la province du Kasaï Oriental, vous trouvez que là où il y a des routes qui est d'intérêt agricole pour lesquels nous avons travaillé. Sur ce point-là, je rappelle le ministre de développement rural qu'au niveau de la base, on a besoin de voir que ces routes-là soient réellement réalisées. Puisqu'il ne reste que 3 mois pour que l'année ici se termine. Ils doivent faire diligence pour que les routes d'intérêt agricole, que pour permettre l'évacuation des produits des milieux agricoles vers les centres de consommation, ces routes-là doivent commencer immédiatement. On a lancé dans les bancs d'Undu, nous encourageons, c'est que quand le Premier ministre était parti avec son équipe, mais si l'ensemble de la République, ça doit être de même, ça ne doit pas être sectoriel. Alors, nous rappelons au ministre des Actions humanitaires que dans les budgets, dans nos différents budgets, il y a le problème de la gestion des catastrophes et l'assistance des personnes victimes de tout ce qu'il y a eu comme problème. Et cette assistance doit aussi être vécue par toute la population en cas de problème. Nous l'avons vu dernièrement aller assister nos compatriotes de Beni à Ouidja avec tout ce qui s'est passé comme problème. Nous avons vu aussi dans d'autres provinces, mais nous, la province du Kassai Oriental l'attend et le territoire de Katanda aussi, victime de conflits. Il faut qu'eux aussi soient assistés de la même manière qu'on a assisté les autres. À l'Assemblée nationale, en dehors des problèmes de budget que nous attendons, nous voulons que l'Assemblée nationale assiste aussi le peuple congolais de la même manière qu'on a assisté nos frères, nos compatriotes de Camp Luka, que notre bureau assiste aussi les sinistrés de Katanda qui continuent aussi à attendre, les sinistrés de Bukavu et d'autres. C'est ça ce que le peuple congolais attend. Pour revenir maintenant à d'autres enjeux.
Rapidement.
En dehors du budget, il y a des enjeux politiques, réellement, puisqu'il y a l'auditeur de Tananga, de Luebu, qui a parlé des élections indirectes. Vous avez dit que vous avez laissé notre collègue, honorable Ngoyi Tata, qui a parlé du retour des votes du président de la République, qu'on puisse changer la loi électorale, qu'on n'aille pas de mal. Ça, c'est. Est-ce qu'il faut renvoyer un autre collègue et l'auditeur à lire la Constitution dans ses articles, dans l'article
20. Voilà, je sais que les débats autour de ça.
Cela, nous ne pouvons pas revenir sur ça.
Voilà.
Je préfère, avant que vous puissiez passer la parole à notre collègue, il y a des points sur lesquels nous devons beaucoup marteler pour cette session, c'est le contrôle parlementaire. Toutes les législatures passées ici ont échoué sur ces points-là. Et ça fait 2 ans que nous sommes là, bientôt 2 ans, que le contrôle parlementaire, bien que nous sommes en train de le faire dans des commissions, mais ce contrôle parlementaire doit aboutir. Nous devons vivre les résultats. Le peuple congolais a besoin des résultats.
Des résultats, c'est ce que votre collègue, oui.
Des résultats probants. Nous ne pouvons pas, et je rappelle à Madame la Présidente que c'est elle qui sera jugée au bout de 5 ans dans sa gestion. Que les législatures passées sont déjà passées, que ce n'est pas pour rien qu'on a mis en place la commission suivi et évaluation. C'était pour corriger les erreurs de la législature passée où il y avait le contrôle de complaisance. Nous ne sommes pas venus à l'Assemblée nationale pour faire des contrôles de complaisance. Nous voulons que le contrôle soit réellement contrôle. Comment expliquer, par exemple, je vous donne un cas probant de la session passée. Le ministre des Transports devait venir répondre au niveau de la commission suivi et évaluation en ce qui concerne les prix des billets d'avion. Sur base il était appelé là-bas. J'avais initié une initiative parlementaire, une question orale avec débat, pour qu'il vienne répondre. Comment expliquer que depuis 1996, l'effort de guerre, l'avion coûtait 75 dollars, Mbujimayi, Kinshasa. Aujourd'hui, le même trajet, plus de 20 ans après, coûte 250 dollars, en plus d'autres frais. Comment au Congo, on doit payer les billets d'avion plus chers qu'à travers les autres pays d'Afrique et du monde entier? Au lieu que le ministre, non seulement il n'a pas répondu à cette initiative, jusqu'à présent, nous continuons à attendre, il devait aussi revenir dans la commission civile. Il n'est pas venu. Et les raisons qui ont été évoquées, ce n'est pas les
raisons correctes. Voilà, je crois que ça reste à l'interne pour que vous puissiez vous adresser à Madame la Présidente, comme vous l'avez dit.
Non, c'est vrai.
Mais vous l'avez déjà.
C'est l'interne, c'est un exemple pour dire à Madame la Présidente.
Voilà.
Nous attendons que cette session qui est un contrôle parlementaire.
Exactement,
réel,
et c'est ce que la population.
Voilà. De complaisance.
C'est ce que la population aussi attend. Oui. C'est ce que la population attend, exactement. Alors, on revient dans ce studio avec l'honorable Ntingi Pouloulou. Vous avez suivi les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il y a tellement beaucoup d'attentes. La population attend tellement beaucoup de choses de vous, les élus. quand ça se passe à la RTNC, les gens attendent beaucoup de choses. Et vous avez suivi, au-delà de tout ça, les lois, la loi électorale, la modification, et vous avez dit remettre les sourires. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'allure, le travail tel que vous le faites au niveau, vous en tant qu'élu, et l'ensemble de tous les élus, vous conduisez vraiment le peuple vers ses sourires, comme vous l'avez dit dans votre introduction?
Merci beaucoup à tous les intervenants. Ce que moi je dois dire, tout ce qu'on peut dire, tout le monde attend les sourires du peuple. Mm-hmm. Ça, vous êtes d'accord avec moi.
Exact.
Maintenant, la méthodologie pour y parvenir.
Et ça, c'est très important.
Que signifie budget? Le budget est essentiellement constitué des taxes et impôts. Et les taxes et impôts dans l'ensemble, c'est ce que vous appelez la fiscalité. Et la fiscalité, en définition simple, c'est quoi? C'est la comptabilité plus les droits. C'est-à-dire le nombre des actes budgétaires associés au principe de fonctionnement pour aboutir à une assiette fiscale. C'est là le vrai problème. Et les problèmes du Congo aujourd'hui, nous devons avoir un budget. Moi, vous m'avez réussi avant d'être député. Hein. Je vous ai dit, si moi je suis président de la République, le budget serait d'abord de 20 milliards. Pour que le Congo parle de la réduction de la corruption, il faut que le budget soit d'abord de 20 milliards. Ça, c'est visible même à l'œil nu. Si vraiment le gouvernement qui a le devoir et le pouvoir réglementeur s'assume, je dis bien le gouvernement qui a le devoir et le pouvoir réglementeur s'assume, voit ce qu'un Tsingy Pouloulou voit, réfléchit en termes d'un Tsingy Pouloulou, il a de l'amour envers le peuple comme un Tsingy Pouloulou, je vous dis, nous devons avoir un budget de 20 milliards facilement.
Comment?
Ah mais, on doit passer par l'impunité.
La lutte contre l'impunité.
Ah voilà. C'est le médicament, le meilleur médicament pour atteindre un budget de 20 milliards. S'agissant du partage du budget, c'est qu'a évoqué un intervenant. Que le budget paye seulement une certaine catégorie de personnes, mais le peuple souffre. Oui, votre serviteur Tsingy Pouloulou. Vous savez même, Joseph Kabila a souffert de ça. Quand on vous parle de budget de 2 milliards, 3 milliards, ne sous-estimez pas ça. Je vous rappelle que Mouzé est arrivé, le budget était de 700 millions. Mais Mouzé payait les fonctionnaires de $100, sans interruption. Kabila devient, Joseph devient président de la République. Il nomme Kizenga Premier ministre, le budget est arrivé à 1,2 milliard, mais Kizenga paye à son âme, c'était ses grands esprits, il payait les étudiants $30 comme bourse. Comment expliquer aujourd'hui, nous avons un budget de 5 milliards, 9 milliards, 10 milliards, les policiers ne touchent pas toujours $100. C'est paradoxal. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y avait pas un Tsingy Pouloulou à l'hémicycle. Il n'y avait pas une découverte sincère dans le partage du budget. C'est pourquoi, remercions, rendons grâce à Dieu de ceux qui ont choisi Tsingy Pouloulou comme député. Je suis élu et j'ai découvert maladie.
Vous avez découvert que beaucoup, plus de 60-70%, c'est pour les frais de fonctionnement. Est-ce que ça a changé dans l'élaboration du budget?
Oui, dans le budget 2020, j'ai intervenu dans la commission, j'ai intervenu en plénière, ça a été revu à la baisse à 46%.
Le frais de fonctionnement?
Oui, 46%. Maintenant, j'avais demandé qui a déjà travaillé dans une institution et qui a vu les frais de fonctionnement à plus de 25%. Personne. Donc maintenant, je crois qu'ils vont encore descendre.
Okay.
La commission Ecofin et qui ont fait les économies. Moi, je suis ingénieur physicien. Donc, moi, je suis dans les résultats. Je ne suis pas intéressé à toute théorie. Je suis intéressé aux théories transformables. Toute connaissance qu'on ne traduit pas en produit est vaine. Moi, je suis ingénieur. Quand on parle, moi je vois la finalité. S'il y a des résultats,
les résultats que le peuple va toucher pour amener le peuple au sourire, je suis d'accord. Mais les restes, je ne suis pas intéressé.
Alors 081, on va revenir à vous, 081-890-4969. 081-890-4969, c'est le numéro pour intervenir en direct. Mais le débat s'étient également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Bien fait, Baraka. Vous êtes à Ouvira dans les Sud qui vous remercie de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, je suis à Kainama dans le territoire de Beni.
Ah, bien fait, Baraka. Vous êtes à Kainama, oui, oui, voilà. Vous êtes à Kainama, à Beni, voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette session parlementaire?
C'est que la population en général de Kainama et dans le territoire de Beni attend par rapport à cette session budgétaire. À mon avis, je pense qu'il serait bon d'abord de régler la situation budgétaire et prévoir ce qui allait se passer avec la situation des ADF qui perdurent plusieurs années. Au même moment, il y a la situation des COGECO et au sud Kivu également, il y a la situation sécuritaire qui est préoccupante. Alors, la République démocratique du Congo veut faire un budget historique par rapport à cela. Mais l'essentiel était d'abord de régler la situation sécuritaire qui prévoit à République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. À part cela, on pourra également voir si vraiment c'est une priorité de faire ce budget historique à République démocratique du Congo. À part ça, à Kainama, depuis 2006 jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un député, donc ni le député profession, ni le député du gouvernement central. Donc aucun député n'a jamais fait son pied à Kainama dans le territoire de Beni. Donc, nous continuons à rappeler le député qui siège dans les assemblées provinciales, notamment provinciales de Goma et Sike à Kinshasa, de voir comment songer à arriver sur le terrain pour recueillir les doléances de la population. Alors, pour voir comment le gouvernement peut faire ce budget, il faut qu'il puisse voir qu'est-ce qui est prioritaire pour la population, parce qu'avec les soldats président de la République, les peuples d'abord. On pourra d'abord régler la situation qui prévoit à l'Est avant de faire autre chose.
Merci beaucoup. Pour vous, bienfait Baraka, vous êtes à Kainama, à Beni. Il faut que la session puisse se pencher sur la question sécuritaire. Cela veut dire qu'on ait un budget qui puisse permettre à ce que les militaires soient bien payés, qu'on puisse vraiment éradiquer l'insécurité, que ce soit à Beni, en Ituri, au sud Kivu. On a parlé de près de 70 groupes armés. Voilà, il y a autant de problèmes qui se posent aujourd'hui. Merci. Clément, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Radio Kassi.
Et qu'est-ce que vous attendez de vos élus pendant cette session, Clément?
En tout cas, je suis content du fait que vous nous associez dans ce genre de sujet. Ça nous déplore vraiment, messieurs les journalistes. Nous demandons à nos législateurs, nos députés plutôt, nous leur avons donné nos voix, en fait qu'ils parlent de la population congolaise. Mais de plus en plus, nous enregistrons trop de morts, surtout dans l'est du pays. L'insécurité. Mais nos députés sont là en train seulement de se demander qu'on les ajoute de telles choses, qu'on les ajoute les émoluments. Tant que la population souffre, nous enregistrons des morts à Beni, à l'est du pays. Le Congo partout, on enregistre l'insécurité. S'il y a moyen que nos députés puissent établir une loi pour la protection de la population, de toute notre population de l'est, c'est nos frères. Ils meurent chaque jour. Mais aucune autorité du pays ne donne la parole pour mettre fin à ce genre d'insécurité. Alors, comme je l'ai écrit dans la page Facebook, il serait mieux qu'ils établissent une loi dans l'Assemblée nationale pour qu'il y ait protection des gens. Les gens ne sont pas des animaux, ils ne sont pas des oiseaux pour que à chaque fois on nous tue, à chaque fois on fait des désordres dans le pays. Mais personne ne parle. Oh, on a volé comme ça. Oh, on a soustrait autant d'argent dans la caisse de l'État. Mais aucune autorité ne prend
la décision. Et ça, c'est, vous voulez un engagement strict. Alors, même tout à l'heure, l'honorable Bintou a parlé des lois qui ont été votées sur la question de la corruption. Je reviens à vous dans ce studio, honorable Ntingi Pouloulou, avant d'accorder la parole à votre collègue Apasfi qui est à Ouvira, parce que vous avez dit qu'il faut lutter contre l'impunité pour qu'on puisse avoir suffisamment de fonds et augmenter notre budget. Alors, quels doivent être aujourd'hui les axes majeurs pour vous sur cette question-là? Parce qu'elle est une question très importante, comme vient de le dire Clément de Kinshasa.
Vous savez, la question liée à la sécurité. La sécurité, la définition la plus simple, c'est l'état à l'aise d'une personne, d'un peuple. Nous avons reçu le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Ils sont venus répondre aux questions des députés, aux préoccupations des honorables députés. Le ministre de la Défense, il avait parlé pendant 45 minutes, prenant la parole, je lui avais dit, tu n'as rien dit. Tout ce que tu as dit, c'est ce que le commun des mortels parle. Je veux que tu nous dises, tu es en face des députés, tu n'as rien dit. Il sollicita un huis clos. Nous sommes arrivés en huis clos. Le ministre de la Défense dit ceci. Nous voulons un soutien sincère pour mettre fin
à
l'insécurité à l'Est.
Un soutien sincère.
Suivez bien, très bien. Nous voulons un soutien sincère. À chaque fois qu'il explique une citation, il revient à ce paragraphe-là. Mais j'insiste que nous voulons un soutien sincère. Vous connaissez bien l'Est, nos députés qui sont ici. Nous voulons un soutien sincère. Si vous voulez vraiment, si vous tenez vraiment, si vous acceptez vraiment qu'il y ait la paix à l'Est, nous voulons un soutien sincère, en âme et conscience. Moi, je suis ingénieur physicien. Moi, j'ai pas fait les Français. Vous qui avez fait les Français, journalistes, les économistes, les avocats et les juristes et consorts. Quand quelqu'un vous dit, en tout cas, si tu veux que je vous apporte l'aide, je veux que tu me soutiennes sincèrement. Il ne trouve pas que vous êtes sincère. C'est-à-dire, les criminels, les organisateurs de troubles, sont dans les institutions. Ça, c'est la première des choses. Deux, votre serviteur, moi, Ntingi Pouloulou, j'ai initié, mais c'est en charge du gouvernement, comment mettre fin à l'insécurité. Puisque le lieu du crime est sacré, puisque je suis ingénieur physicien, on donne réponse à ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on tue quelqu'un, vous avez besoin de savoir qui a tué. Comment ça se passe? J'ai demandé, on doit doter la police scientifique, une banque de données identitaire fiable, que tout Congolais donne l'ADN. Nous avons au niveau de la DGI, au niveau des plaques d'immatriculation, chaque véhicule est associé à une adresse et au nom d'une personne. Nous avons le fichier électoral de 2006, 2011, 2018 et consorts. Chaque nom est associé. Chaque carte est associée d'un nom, d'une figure, d'une adresse.
Et d'une empreinte.
D'une empreinte. Vous allez dans tous les ministères. À l'époque, j'étais consultant à Dell Congo, marque des ordinateurs. Nous avons livré à la fonction publique. J'avais déjà commencé l'opération avec l'armée. Les militaires de l'époque, vers 2003-2004, ils ont des pistes électroniques. C'est nous qui avons fait ça. Et nous avons voulu que ça soit ainsi à la fonction publique. Par la corruption, ils n'ont pas voulu. Parce que c'était de détecter réellement le nombre des agents. Donc aujourd'hui, si nous dotons la police scientifique et les services de détection de l'armée, un fichier identitaire fiable de tout Congolais, lorsqu'on tue quelqu'un, on récupère simplement là-bas. On saura qui a tué, qui ont touché les munitions en question. Si on vous menace, même en cours de route, toute personne qui va vous toucher, son empreinte reste sur votre corps, facilement détectable. Mais je n'ai pas été soutenu. Vous devez comprendre qui est réellement votre ennemi. Moi, je suis serviteur du peuple, je suis député pour l'intérêt du peuple, je travaille pour l'intérêt du peuple parce que j'avais promis mes compétences, mon passé, mes études, mon permis de penser de la manière dont je suis dépensé pour l'intérêt du peuple. Mais vous devez comprendre.
Et là,
Et là,
vous devez
c'est la
comprendre.
Question.
Oui, ça
comprendre.
C'est la question. Oui,
qui
ça
est
c'est la question.
Votre adversaire en soi.
Voilà la question rapidement sur la question de la sécurité, mais il y a cette question de recette, de coulage, parce qu'on on aborde les deux. C'est le souhait des auditeurs pour qu'on arrive à un bon budget. Vous avez dit, il faut lutter contre l'impunité. Je vous ai posé la question sur les deux trois petits mots majeurs qui doivent être considérés. Et sur cette question, c'est de votre responsabilité aussi au niveau de l'Assemblée nationale.
Vous savez, les députés et législateurs, il n'est pas réglementeur. C'est vraiment des matières différentes.
Vous avez voté la loi, comme le disait l'honorable
oui.
ministre tout à l'heure.
Maintenant, la réglementation, c'est le gouvernement. C'est pourquoi je vous dis, l'article 122, 123, sépare le pouvoir des députés et celui du gouvernement. Le gouvernement, lui, assure la réglementation. Mm-hmm. C'est-à-dire, pour qu'il n'ait pas couleur des recettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi demander au gouvernement? Matata Ponyo, il avait mis en place la TVA. Mais de manière manuelle. C'était encore donner l'occasion aux gens de s'enrichir. Mm-hmm. Parce que l'impôt est resté déclaratif. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ça soit informatisé? Pourquoi?
Et ce sont des mécanismes qu'il faut mettre en place.
Ah, mais
voilà.
Je vous dis que...
Alors,
excusez, monsieur le journaliste.
Rapidement, oui.
Si ce pays, les gouvernements ont la même conscience que moi, aujourd'hui, on parlait de 20 milliards.
Vous avez beaucoup parlé de vous dans cette émission.
Parce que quand on ne parle pas de moi, qui va parler de moi-même?
Alors, merci beaucoup. Mais ici, nous parlons du peuple, de la population. Alors, est-ce que nous avons encore honorable Bintou qui est avec nous en ligne? C'est une matière très importante, la question des mobilisations des recettes. Il ne suffit pas seulement qu'au niveau de l'Assemblée, vous ayez voté les lois qui mettent en place des organes de lutte contre la corruption. Mais il faut qu'on aille jusqu'à dans le fait et au bout. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui et quel devra encore être votre part des responsabilités dans cette question?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Je voudrais juste encore revenir sur le fait que pour répondre à votre question, il faut savoir que si nous voulons avoir un vrai budget, nous devons, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? C'est en dehors de légiférer, il faut contrôler. Ce qui tue notre pays, c'est l'absence de contrôle. Mmh. Quand les gens ne sont pas contrôlés, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Est-ce que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans des entreprises publiques, ceux qui gèrent les services de l'État, comme dans le temps, ils étaient contrôlés pendant l'époque belge, il y avait des sanctions pour tout celui qui volait. Mais c'est pourquoi il y avait la stabilité. Mais depuis que nous sommes entrés dans le régime de l'impunité, où quelqu'un pouvait se permettre faire tout ce qu'il pouvait faire sans aucun contrôle. Vous rappelez, si vous suivez l'histoire de ces pays, vous trouverez qu'il y a même certains premiers ministres qui avaient supprimé d'autres services de contrôle. Comment nous pouvons vivre? Comment quelqu'un peut demander le contrôle lui-même dans une entreprise où il gère les biens de l'État? Ça s'appelle les biens de l'État. En plus, les gens doivent avoir une nouvelle mentalité. La mentalité nouvelle, le changement de mentalité que nous cherchons aujourd'hui est que quand on accède à un poste de responsabilité, ce n'est pas pour s'enrichir soi-même. Mm-hmm. C'est pour travailler pour l'intérêt de votre pays et marquer ses empreintes pour dire que moi, je suis à niveau de l'Assemblée nationale pendant mes 5 ans, voilà le travail que j'ai fait. Moi, je suis au gouvernement, voilà les empreintes que j'ai laissées. Il y a des ministres qui ont laissé des petites choses. Aujourd'hui, on vous parle des ponts Lundabululu. Ok? Tout le monde en parle, tout le monde qui passe par là. Mais quand vous allez quitter le gouvernement, vous êtes ministre, vous êtes tel que vous êtes là, à n'importe quelle fonction au sein du gouvernement. Quand vous quitterez les fonctions du gouvernement, puisque ce n'est pas éternel, qu'est-ce que vous avez laissé aux Congolais? Donc, il faut par contre encourager les actions actuelles de mettre fin à l'impunité, de contrôler chaque service pour que ce qui entre réellement dans la caisse de l'État entre dans la caisse de l'État. C'est ce qui nous manquait dans ce pays. Si nous n'avons pas un contrôle efficient, vous avez dit que c'était des questions internes que nous devons faire au niveau à l'interne. Mais quand à l'interne, on commence à bloquer les initiatives parlementaires, pour faire le contrôle, à ce moment-là, on ne sert pas la République. Donc, puisque ces ministres-là, il n'y a que nous qu'on a élus pour les contrôler. Vous voulez que quelqu'un quitte à Kanunchina pour venir contrôler les ministres des budgets ou bien les ministres des finances, mais il a délégué son élu. L'élu fait une initiative parlementaire. pour que ces ministres-là viennent se justifier. Et quand ils ne se justifient pas correctement, la suite c'est quoi? Il faut aller jusqu'au bout de la logique, puisqu'il peut laisser la place à quelqu'un d'autre qui doit travailler pour mieux travailler, s'il se défend correctement. Donc, on doit les laisser continuer. C'est ça ce que nous voulons dans ce pays.
Merci.
C'est pourquoi je rappelle à notre bureau, ce n'est pas une responsabilité personnelle, ni de la présidente de l'Assemblée nationale,
okay,
ni des bureaux, ni des présidents de C. C'est les bureaux ensemble.
Merci.
Mais quand il y a un bureau, il y a celui qui est à la tête.
Voilà.
C'est la personne qui est à la tête qui va conduire.
Merci beaucoup.
Sous le régime de Bintou, ou bien sur les autres, celui qui est à la tête de l'Assemblée nationale, on dira si c'est moi qui gère l'Assemblée nationale,
voilà,
on dira que c'est moi.
Alors merci.
C'est pourquoi
merci
nous
beaucoup,
demandons à Madame la Présidente d'insister sur le contrôle parlementaire.
Si je crois que c'est votre mot de conclusion.
Si on arrive,
voilà,
à la fin de la législature, il n'y a pas de contrôle, nous dirons qu'elle a échoué.
Merci beaucoup. On considère que c'est votre mot de conclusion parce qu'on doit déjà chuter. Il y a encore un ou deux auditeurs en ligne. Peut-être ça va être difficile de pouvoir le faire passer tous. Mais en attendant, Pacifique, vous êtes à Ouvira. Pacifique, en un mot, quelles sont pour vous les grandes lignes prioritaires pour permettre aussi à Gilbert de s'exprimer rapidement? Pacifique, bonjour. Pacifique, vous êtes avec nous, bonjour. Pacifique, vous êtes à Ouvira, bonjour. Voilà, des petits soucis des lignes avec Pacifique. Gilbert est à Kindou. Gilbert, merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour Gilbert.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de m'écouter pour le moment.
On vous écoute rapidement, Gilbert.
Oui, merci d'avoir m'accordé la parole. Avant tout, je vous félicite d'avoir cette session ordinaire qui a été faite par les élus de notre pays. Maintenant, la première des choses, j'encourage cette idée. Parce que, de mon avis, je vois que leur session est organisée pour leur intérêt propre, non pour l'intérêt de la population. Parce que, moi, je me pose d'abord la question de savoir, chaque jour, ils organisent la session. Et ils disent qu'ils vont traiter pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Au moment où ils ne font rien pour la population. Mais pourquoi tromper la population? Ça, c'est une question que je me pose.
Voilà, je crois même d'ailleurs qu'il faut poser cette question à vos élus de Kindou pour leur dire, mais vous allez dans la session, chaque fois vous dites que c'est pour vous vous occuper de la population, mais pourquoi on ne voit pas l'amélioration de conditions de vie de la population? Je crois que c'est par vous, hein, Gilbert, pour les auditeurs, que nous allons terminer ce magazine et revenir dans ce studio à notre invité Tingi Pouloulou, député national. Vous avez suivi les uns et les autres. Je sais que les gens attendent tellement beaucoup de vous. Vous aussi, vous attendez beaucoup du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour clôturer cet échange?
Donc, les responsabilités sont partagées. Nous avons notre responsabilité, c'est de légiférer, de contrôler, et le gouvernement
exécute,
assure l'exécution des lois et la réglementation. Donc, les grands problèmes, j'insiste, sur la réglementation. Ce que je viens de vous dire, que dans chaque province, dans chaque territoire, on doit avoir les ingénieurs agronomes, les moniteurs agronomes, le vétérinaire, les ingénieurs des travaux publics pour
les routes
à des sites agricoles, prendre ce qu'ils vont faire le cantonnage manuel, les villages modernes, tout ça fait partie de la réglementation. À notre niveau, il y a des lois. Moi, j'attends du bureau de sélectionner la loi que nous avons débattu avec vous ici sur les chefs de riz.
Oui.
Donc, c'est toujours à jour, nous attendons.
On espère qu'un jour, ça sera...
Un jour,
ça sera,
donc,
ça sera
inscrit. Vous voyez déjà que Tingi Pouloulou, je suis arrivé avec la réforme réelle de l'État, mais bon, on attend. Je ne suis pas pressé, je regarde qui veut que l'intérêt du peuple s'exprime.
Merci
parce que
beaucoup.
Je sais que qui veut la paix exprime l'amour. L'amour, c'est envers les peuples.
Merci
tout
beaucoup.
Tout ce que moi, je peux dire...
Et ça, c'est un mot de conclusion très important.
Tout ce que moi,
qui
je peux
la
dire,
paix, exprime l'amour.
Exprime l'amour.
Et c'est aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix.
Ah, merci beaucoup au chef de l'État. Chef de l'État...
Rapidement.
Nous nous sommes convenus. Vous devenez président, nous devenons les députés pour l'intérêt du peuple. En 2005, personne ne savait que vous serez président. Pensez du bien, parlez
merci
bien,
beaucoup.
Faites du bien pour l'intérêt du peuple congolais, car
Les riches ont l'air passé et les pauvres ont l'air à venir.
Merci beaucoup. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en œuvre de réalisation de ce magazine que nous allons retrouver sur www.radiocapi.net. Nous vous disons merci. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.